mais j'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour à tous et bienvenue sur Aléa. C'est Régis au micro et je suis en présence de Marion.
Bonjour.
Aujourd'hui, émission un peu spéciale puisque nous allons tous les deux vous rapporter les réflexions d'un invité que nous n'avons pas invité, mais qui nous parle tout de même de son approche et de sa compréhension du jeu dans la société actuelle. Il s'agit de Mathieu Triclot, un philosophe des jeux et plus spécialement des jeux vidéo, qui livre dans une interview réalisée en 2013 par Juliette Serre pour le journal Télérama une interview sur son approche et sa compréhension du rôle des jeux. Et dans cette interview, nous allons vous rapporter l'essentiel, modifié à notre sauce, mais l'important, c'est que l'essentiel y est. Je rejouerai l'intervieweur et Marion reprendra la voix et les pensées de Mathieu Triclot. Ou inversement. Enfin, vous verrez. Il s'agit simplement pour vous de vous projeter. Et c'est parti.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Juliette.
Il paraît que le jeu vidéo est devenu la première industrie culturelle devant le cinéma et la musique. Qu'est-ce que vous inspire ce constat?
Le poids de ces secteurs économiques reste très difficile à estimer, en fait, de manière fiable. On sait avec certitude que les jeux vidéo sont la pratique culturelle qui a progressé le plus vite dans la population française ces dernières années. Il y a près de 6 adultes sur 10 qui ont joué au moins une fois dans les 12 derniers mois. Mais en fait, on peut jouer de manière très variée, dans le métro, sur son téléphone ou chez soi, sur son ordinateur ou sur sa console de salon. À la différence du cinéma où la salle a été longtemps le point focal, le jeu vidéo demeure en fait une pratique culturelle très très éclatée.
Le jeu sous toutes ses formes n'a-t-il pas toujours été un mal-aimé?
En fait, on dit souvent qu'un enfant incapable de jouer, c'est quelque chose qui va inquiéter la société, qui associe jeu et éducation. Mais un adulte qui continue à le faire, eh bien ça dérange. Il va passer pour un attardé qui ferait mieux de travailler. L'activité ludique adulte était déjà suspecte avant que le travail ne devienne la valeur centrale dans nos sociétés. Donc oui, le jeu est en général un mal-aimé.
Indignité d'un côté, propre de l'homme de l'autre, cette tension caractérise-t-elle le jeu finalement?
Eh bien, aucune société, à ma connaissance, n'a fait du jeu son phénomène central. Jouer reste une activité sociale secondaire, résiduelle, logée dans les interstices. Et pourtant, le jeu est une grande manière d'être et de devenir humain, une conduite anthropologique fondamentale. La conscience du jeu, au fond, n'est-elle pas, et je vous pose la question, nécessaire au jeu?
Si, bien sûr, et c'est toute l'ambiguïté de l'état ludique. Pour exister, le jeu demande un engagement total, sérieux, mais qui doit se doubler de la conscience que c'est pour de faux et que l'activité est fictive, irréelle. L'enfant qui joue avec son cheval à bascule sait parfaitement qu'il n'est pas face à un vrai cheval. En fait, on est tout à la fois captivé et lucide, absorbé et conscient. Le jeu est donc à chaque fois un double jeu. Il obéit au registre du « comme si ». En ce sens, il est créateur d'un espace de fiction infiniment délicat et fragile, toujours à même de s'effondrer, car arrêter de faire comme si, c'est aussitôt briser le jeu.
Alors en parlant de briseur de jeu, est-ce que tricher, c'est corrompre le principe du jeu?
C'est compliqué parce que le tricheur reste parfois dans l'univers du jeu. Il y a plusieurs manières de tricher. Le tricheur peut briser le pacte ludique et donc tuer le jeu, ne serait-ce qu'en poussant les autres à arrêter, par exemple. Mais il peut aussi, paradoxalement, accentuer le caractère ludique de la situation. Tricher devient alors un surjeu, un jeu avec le jeu. C'est une manière de jouer avec les limites, avec les règles, bref, de s'adonner à une certaine forme de dérèglement. Le tricheur refuse ce que la situation peut avoir de trop cadré. Il veut rajouter de l'incertitude, du chahut. Et en fait, il met surtout en lumière un fait essentiel. Les jeux se jouent avant tout comme on joue d'un instrument, en improvisant.
Mais est-ce que c'est vraiment le cas, du coup, pour le jeu vidéo, puisque l'univers du jeu vidéo est déjà fixe ?
Il y a de la créativité dans le jeu vidéo. Elle réside dans l'alliance absolument inédite entre la simulation, le faire comme si, faire semblant d'être un chevalier, un pirate, etc., et l'ordinateur, cette machine à règles impliquant que tout soit mis en signe, en système, en calcul préalablement. Le jeu vidéo invente donc de nouvelles manières de jouer. Il a modifié en profondeur les impulsions ludiques, telles que Kaiwa les avait cartographiées en réunissant la compétition et le vertige. Ce qui est parfaitement le cas pour celles et ceux qui ont essayé pour la réalité virtuelle, par exemple. Le jeu vidéo, et plus généralement le jeu, est aussi créatif dans ce qu'on appelle la gamification. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est la gamification ?
Oui, bon, c'est une notion assez à la mode qui vient simplement dire qu'on va transposer les codes du jeu à d'autres espaces de la vie sociale où ils n'étaient jusqu'alors pas présents. Alors on trouve bien cette idée exprimée chez Jane McGonigal, qui, dans son idée, c'était de transposer des dispositifs de jeux vidéo à la vie quotidienne en partant du constat que notre réalité est cassée. « Reality is broken », qui est le titre de son best-seller de 2011. La gamification, en fait, se présente comme le remède de cette réalité cassée. Si les tâches de la vie ordinaire sont si peu engageantes, transformons donc le monde en un jeu vidéo, en y ajoutant simplement des systèmes de points, des récompenses, des missions, etc., etc. Alors certains y ont vu une promesse formidable, que le ludique s'immisce dans toutes les sphères de la société, notamment dans le travail. Les jeux vidéo en ligne en particulier ont été vus comme des machines à créer de l'engagement de la part des joueurs qui se livrent à des tâches répétitives ressemblant à du travail. Et ils payent même pour le faire. Il y a de quoi faire rêver n'importe quel patron.
Mais du coup, ça peut paraître un peu dangereux dit comme ça. Est-ce que la sphère du jeu ne devrait pas plutôt rester séparée de la vie réelle ?
Alors, l'effet de mode autour de cette forme de gamification est un peu passé, et heureusement d'ailleurs. D'abord, parce que l'une des finalités était de produire toujours plus d'exploitation au travail. Mais aussi parce que cette injonction à jouer allait totalement à l'encontre du potentiel ludique. Si le jeu a le pouvoir de redéfinir notre rapport au monde, la gamification avait pour objectif de nous river à l'existant. Toute la marge de créativité du jeu est donc éliminée comme ça. Or, le jeu doit rester une activité libre. Il faut bien insister sur ce caractère séparé, c'est-à-dire sacré et improductif du jeu, ne créant ni bien ni richesse. Ce qui veut dire que le jeu n'a pas d'autre sens que lui-même. Ou plutôt, que c'est un endroit où le sens se crée, où des potentiels se dessinent à l'intérieur d'un cadre de règles que l'on a nous-mêmes fixé.
C'est en quelque sorte un endroit où l'on retrouve toutes les qualités, toutes les dynamiques de ce qui fait société. Un corps de règles, des normes, de la créativité, des enjeux et de la rationalité, de l'interprétation et de l'improvisation, et surtout, une forte création de sens, d'un espace autour duquel on déploie énormément de nuances par les manières de jouer.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord ? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer ?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer ? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Lui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu ?
Non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu ! Tu as perdu ! Tu comprends ? Tu ne joues plus !